Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Et alors, ça sent l'orage. Et si je croise pas de rigole, j'ai toute l'eau qui se fout sous mon tapis de sol.
Vive le Puy de Dôme!
Bienvenue dans mon laboratoire.
Que trouve-t-on au fond d'un puits? Si on a de la chance et un seau, la réponse est souvent de l'eau. Moins évident, que trouve-t-on en haut d'un puits? En l'occurrence, je parle du Puy de Dôme, un truc tout gros, tout blanc que vous connaissez aussi sous le nom de nuage. À 1465 mètres d'altitude, le sommet clermontois a le nez dans la brume 40% du temps. Ce qui en fait l'emplacement tout trouvé pour un laboratoire unique en son genre car spécialisé dans l'analyse de la purée de pois et autres formations célestes. Vous aurez compris que je parlais d'un puits PUY, destination donc l'Auvergne, patrie du Saint-Nectaire, des usines Michelin et de la pierre de Volvic. Loïc Chauveau, l'expert nature et environnement de Science et Avenir, y était il y a peu et il a eu la chance de visiter l'Observatoire de physique du globe à Clermont-Ferrand. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Toi qui t'es rendu sur place, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes impressions et surtout à quoi ressemble de l'extérieur un laboratoire d'analyse de nuages?
Eh bien, c'est un bâtiment un petit peu commun qui ne ressemble pas à grand-chose, sinon que sur son toit, c'est bardé d'antennes, de coupoles, de capteurs. Cet endroit est complètement hérissé d'instruments de mesure et c'est ça qui fait sa spécificité. C'est-à-dire que c'est vraiment un laboratoire qui est simplement important par son toit, par sa capacité à mesurer. C'est un lieu qui est plutôt ancien, puisqu'on va fêter cette année ses 150 ans, et d'ailleurs, je pense que les gens de Clermont-Ferrand sont invités à cet anniversaire au mois d'octobre. C'est un des premiers laboratoires en France qui a servi en matière de climatologie et de géologie. Et puis, il y a à peu près une vingtaine d'années, on l'a équipé d'un aspirateur à nuages qui permet effectivement de mieux comprendre ce qui se passe dedans.
Ce laboratoire, donc clermontois, est unique au monde. La question, c'est en quoi précisément? Car je me doute qu'il y a d'autres lieux sur Terre où des scientifiques plongent leur tête dans des nuages.
Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. En fait, dans le monde, on compte 5 laboratoires qui étudient les nuages. Il y en a un aux États-Unis, un en Chine, un en Italie et un en Allemagne. Mais ces 4 autres laboratoires ne sont accessibles que quelques semaines par an pour les chercheurs. La spécificité du laboratoire de Clermont-Ferrand, c'est que par un réseau de Wi-Fi, toutes les données sont mesurées en continu et elles atterrissent immédiatement plus bas dans Clermont-Ferrand, dans leur laboratoire.
Alors moi, j'ai passé mon temps à sauter de surprise en lisant ton dossier parce que je me suis dit, mais ok, un laboratoire d'analyse de nuages, super, mais qu'est-ce qu'il vient faire au sommet du Puy de Dôme qui, en soi, n'est pas si haut que ça? Je l'ai dit tout à l'heure, 1465 mètres d'altitude. Moi, j'aurais plutôt placé le gros parallélépipède avec toutes ses antennes en haut des Alpes.
Le Puy de Dôme est très intéressant parce que géographiquement, c'est la première montagne que tous les nuages provenant de l'océan Atlantique rencontrent. Et donc, forcément, le Puy de Dôme est 40% du temps dans les nuages. Et ça, c'est intéressant. Et puis surtout, 1465 mètres, c'est juste la limite haute de la troposphère, c'est-à-dire la limite entre la couche basse de l'atmosphère dans laquelle nous vivons et dans laquelle il y a énormément de poussières qui sont dues à l'activité humaine. Et puis cette couche haute, où on va pouvoir effectivement s'extraire de cette influence humaine pour avoir les phénomènes naturels.
Ok. Et dans ce labo consacré, on l'a dit, à l'analyse des écharpes, des formations cotonneuses, tout ça, qu'est-ce qu'on apprend en regardant des nuages de plus près et qu'analyse-t-on exactement?
Il faut savoir d'abord qu'un nuage, c'est de l'air. Il y a 0,3 grammes par mètre cube qui sont de l'eau. Donc c'est un univers qui est extrêmement diffus. Et la difficulté, ça va être justement de savoir exactement ce qu'il y a dans cet univers diffus. Alors, il y a à l'intérieur de ce laboratoire un outil qui est essentiel, qui est un aspirateur à nuages. En fait, c'est une espèce de grande turbine, une soufflerie qui va aspirer cette masse blanche que l'on voit du sol et à la vitesse de 430 km/h. Et comme ça, on va extraire effectivement de l'eau, mais ce qu'on cherche, c'est les particules qui sont à l'intérieur des nuages. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les nuages, c'est pas que de l'air et de l'eau, c'est des multitudes de composés divers.
C'est quoi comme particules exactement? Parce que c'est vrai que le terme de particules, il est quand même extrêmement large.
Alors, on trouve de tout dans un nuage. On trouve évidemment des particules qui sont arrachées à la Terre par l'érosion éolienne. Ce sont des particules de sable, par exemple, qui proviennent du Sahara. Ce sont des particules de fer. Il y a des métaux lourds, du manganèse, le minerai le plus important en quantité à la surface de la Terre avec le fer. Il y a ça, il y a tout ce qui provient de la pollution, c'est-à-dire toutes les matières organiques, les huiles, les résidus de pétrole, les hydrocarbures imbrûlés, etc. On va retrouver aussi, c'est notre pollution. Et puis, il y a également tout un univers de bactéries, de champignons, de levures qui sont elles aussi arrachées par le sol, par les courants convectifs qui vont remonter dans le sol et qui vont se retrouver dans les nuages. Les chercheurs estiment qu'il y a entre 7000 et 8000 particules comme ça qui sont présentes dans les nuages.
Son regard perce les nuages, les ombres, la terre et la chair.
Pas de bol pour lui, on va prendre l'exemple d'un nuage qui vient d'être aspiré. Qu'est-ce qui se passe? Quels instruments se mettent en branle pour l'analyser?
Il y a un laser qui va d'abord compter le nombre de particules qu'il y a présentes dans le nuage. Ce laser va aussi servir à savoir dans quelle forme se trouve l'eau. Est-ce que c'est de la glace? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de la vapeur d'eau? Et puis, il va falloir analyser toutes ces particules et essayer de les mettre dans leur catégorie. Et chercher aussi, puisqu'on en a dit 7000 à 8000 particules, c'est une estimation, parce qu'on ne les a pas toutes répertoriées. Et c'est justement le travail des chercheurs en ce moment, c'est d'essayer de faire l'inventaire de ce qu'on trouve dans un nuage. Et donc ça, ce sont des appareils de laboratoire qu'on retrouve dans tous les laboratoires du monde, les chromatographes, ce genre d'appareils, quoi.
Et toutes ces particules, en gros, sans elles, il n'y a pas de nuage possible, mais elles jouent aussi un rôle, hein, si j'ai bien compris, dans la pluie.
Exactement. Il faut savoir qu'en nombre, la concentration de particules, c'est entre 250 et 350 000 par centimètre cube d'air. Ces particules sont extrêmement présentes. Leur concentration, c'est des microgrammes par mètre cube d'air. Alors, ces particules ont un rôle essentiel, c'est que s'il n'était pas présente, il n'y aurait pas de formation de gouttes. Tout simplement parce que les petites gouttelettes de vapeur d'eau, etc., n'ont pas assez d'énergie pour se coaguler. Elles ont besoin d'une base, d'un support. Et ce support, c'est justement ces particules. Et c'est à partir de ces supports que la vapeur d'eau va pouvoir se concentrer, que les gouttelettes vont devenir gouttes pour former éventuellement la pluie, sachant quand même que 70% des nuages ne tombent jamais sous la forme de pluie.
Quand moi j'ai lu que les gouttelettes reposaient sur un matelas de particules, dont une partie de ces particules était d'origine humaine, tout de suite je me suis mis à penser aux films de science-fiction où on voit des cités recouvertes de nuages gris, parfois avec de la pluie. Et est-ce qu'on sait si justement l'activité humaine, le transport, l'industrie qui relâche leur lot de poussière et d'aérosols, est-ce qu'on sait s'ils ont une influence sur la quantité de nuages présents dans le ciel?
On ne sait pas du tout, jusqu'ici, jusqu'à présent, s'il y a une influence forte de ces particules. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le sel, puisqu'il arrive à absorber beaucoup l'eau, c'est, tout le monde le sait, le sel est un grand formateur de nuages. Et c'est pour ça que les nuages se forment beaucoup au-dessus des océans. Puisque là, les particules de sel sont arrachées de la surface de l'océan, montent dans l'atmosphère et vont concentrer l'humidité de l'air. Pour le reste, les rôles, justement, c'est le rôle de la recherche en ce moment, d'essayer de comprendre comment tous ces mécanismes interagissent entre eux. Et c'est très, très compliqué. Parce que vous comprenez bien qu'avec 7000, 8000 particules différentes dans un milieu qui est très humide et en plus qui est frappé par le rayonnement solaire, on a une multitude de réactions chimiques avec des passages très rapides entre les phases gazeuses, liquides, solides. Et donc, c'est une véritable boîte noire encore pour l'instant.
Tu viens de nous dire un peu comment se crée un nuage, mais maintenant, la question suivante, elle est assez facile, c'est comment il vit et comment il meurt. Tout à l'heure, tu évoquais le chiffre de 70%, c'est-à-dire que dans 70% des cas, les nuages ne durent que quelques heures et s'évaporent sans faire de pluie.
Oui, on parlait tout à l'heure des 0,3 grammes d'eau par mètre cube d'air. Si le soleil est trop fort et si les concentrations en eau sont trop faibles, à ce moment-là, il y a évaporation et le nuage disparaît. Par contre, en revanche, comme on a vu récemment, encore une fois sur le Gard et l'Hérault, quand vous avez une masse d'air chaud qui rencontre une masse d'air froid, vous avez une humidité à ce moment-là qui va se concentrer. L'air chaud chargé d'humidité, en rencontrant la masse froide, va monter en hauteur. Là, on a des formations nuageuses qui font 10 km de hauteur, chargées d'eau. Et quand ça tombe, ça tombe.
Je reviens un peu sur ce que tu disais sur la composition des nuages et sur sa complexité. Tu as évoqué rapidement, et je l'ai chassé parce que je voulais pas qu'on rentre trop vite sur ce terrain-là, c'est celui des bactéries. Qu'est-ce qu'elles viennent faire dans les nuages? Comment elles y sont arrivées, hein, tout simplement? Et ensuite, quelles contributions elles apportent une fois qu'elles sont dans les nuages?
Alors ça, c'est une découverte qui a été faite en 2014, justement par le laboratoire de métrologie de l'université de Clermont-Ferrand. Et leur article dans les PNAS a fait un grand bruit. Ces chercheurs, ils ont trouvé, justement, des bactéries. Et surtout, ils ont montré qu'elles avaient, ces bactéries, une activité biologique. Elles n'étaient pas mortes. En fait, elles proviennent, là encore, de l'érosion éolienne. Elles viennent de la surface. Elles viennent des surfaces des feuilles, notamment. On a cherché à savoir qu'est-ce que c'était que ces bactéries. On s'est dit, tiens, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les feuilles des arbres. Et ces bactéries, eh bien, elles arrivent à survivre dans cet univers très compliqué. Elles arrivent même à avoir un rôle dans la formation des gouttelettes. Elles vivent, alors que le milieu est d'une rudesse absolument invraisemblable, quoi. Le rayonnement solaire, le froid, la complexité des relations chimiques font que ces particules organiques vivantes ne devraient pas survivre. Or, elles survivent, et non seulement elles survivent, mais elles ont un rôle. Et notamment, on a une famille qu'on retrouve très souvent, qui c'est la famille des pseudomonas, qui même ont une espèce de cuticule à la surface qui ressemble à une espèce de cirage, de savon. Et ce savon est très efficace pour la formation des gouttelettes. Non seulement c'est très efficace, mais en plus, elle permet d'abaisser la température de formation de ces gouttelettes. Habituellement, il faut quand même une température de moins 20, moins 30 pour que la coagulation de toutes les gouttelettes se fasse pour former une goutte. Là, avec Pseudomonas, on est à moins 5. Donc, les bactéries font pleuvoir.
La conclusion, elle est assez radicale quand même.
Ah oui.
Les bactéries font pleuvoir.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est rien, c'est qu'un petit nuage.
Qui avance vite. Contre le vent.
C'est moins original ce que je vais dire que les bactéries font pleuvoir, mais j'ai aussi appris autre chose dans ton dossier, c'est que la forme des nuages dépend moins de leur composition que de l'altitude. Quel rôle joue cette altitude dans le design et l'aspect un peu cotonneux ou au contraire filandreux que peuvent avoir les nuages? Est-ce que c'est lié à la température qui va baisser plus l'altitude va être élevée?
Alors c'est la température. Évidemment, plus on monte en hauteur et plus les températures sont basses. Et c'est le rayonnement solaire qui a aussi son rôle, le taux d'humidité dans l'air évidemment. Ces trois facteurs font que on a des différentes circonstances qui font que par exemple on va avoir des cirrus, c'est-à-dire des nuages très très fins de très haute altitude, et qu'on va avoir aussi, comme j'expliquais tout à l'heure pour les cumulonimbus, c'est-à-dire des énormes masses qui font 10 km de haut et qui sont chargées d'eau. Sur le reste, l'Organisation météorologique mondiale fait une recension, et ça je recommande d'aller voir leur site sur les nuages. Ils font une recension sur les formes des nuages. Et dans ma mémoire, il y en a plus d'une trentaine comme ça qui sont répertoriées. Et il y a des gens qui sont dans le monde entier que ça passionne et qui appellent régulièrement l'OMM en leur envoyant des photos en disant « Mais est-ce que cette forme-là, est-ce que c'est un mamulus? Est-ce que c'est un cumulus? Est-ce que c'est un stratonimbus ?» Qui sont dus à chaque fois donc sur les trois facteurs complètement différents d'ensoleillement, de température de l'atmosphère et d'humidité.
Et la couleur, comment elle évolue cette couleur?
C'est le rayonnement solaire qui tape sur l'enveloppe, qui montre la différence en fait de teneur d'humidité entre l'air extérieur et là où s'est concentrée l'humidité. En fait, on voit un nuage, mais dedans, il faut savoir qu'il n'y a quasiment rien. On voit une enveloppe.
Mais ouais, et à l'intérieur, il y a du vide, quoi. C'est tout.
0,3 enfin, grammes d'eau par mètre cube et des millions de particules.
Il y a un terme que tu as employé tout à l'heure qui est assez important et limite paradoxal par rapport à ces gros trucs blancs que sont les nuages, c'est celui de boîte noire. Finalement, on ne sait pas tant de choses que ça sur les nuages. Est-ce qu'ils participent au réchauffement climatique ou est-ce qu'ils le combattent? Dans le rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat remis le 9 août, les experts avouent quand même plus ou moins leur ignorance, c'est ça?
Non, on ne sait pas rien. On commence un petit peu à décrypter leur rôle, et c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'incertitudes. Ce qu'on sait, c'est que suivant le lieu sur la planète, suivant la taille du nuage, sa formation, etc., ce nuage peut être à la fois réfléchissant et refroidissant. Si vous prenez un cirrus en haute altitude, ce cirrus va bloquer le rayonnement solaire, le renvoyer dans l'atmosphère et va avoir un rôle refroidissant. Par contre, si vous avez un bon nimbus bien épais, lui, il va bloquer le rayonnement solaire qui normalement aurait rebondi sur la surface de la planète, serait reparti dans l'espace. Là, il va être bloqué par le nimbus. Donc, suivant les circonstances, un nuage peut être refroidissant ou réchauffant. Il y a un consensus qui s'instaure maintenant, qui consiste à dire que quand même, globalement, à la surface de la Terre, leur rôle est plutôt refroidissant. Une analyse qui a été faite par le Centre de recherche en météorologie de Météo France affirme que la hausse de la température à la surface du globe depuis 1850 aurait été supérieure à 1,5 degré, donc on oublie l'accord de Paris, si les nuages n'avaient pas été là pour refroidir l'atmosphère de 0,3 degré, ce qui fait qu'on est aujourd'hui entre 1,1 degré et 1,2 degré de réchauffement des températures mondiales.
Donc il faut dire merci aux nuages et prier pour qu'il y en ait davantage finalement.
Exactement, même l'été.
Et même l'été, bon, on va se souhaiter ça finalement, donc des étés bien nuageux. Eh ben, j'ai plus de questions en magasin, ça veut dire pour toi Loïc que l'horizon se dégage, tu peux donc retourner à tes autres dossiers avant qu'on fasse, je te préviens, à nouveau appel à toi pour un épisode de 6ème Science. Bref, pars pas trop loin, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines et n'oubliez pas, puits de science ou puits de dôme, on ne fait pas de différence, on envoie de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.